Bon, oui, j'ai essayé de remettre un petit peu en perspective les différentes crises que le monde a connues depuis 2007. Je vais parler d'abord de la crise financière et donc économique par la suite. Ensuite, la crise alimentaire, la crise climatique et puis, je vais terminer par la crise institutionnelle, donc la crise des institutions internationales au niveau mondial. La crise financière, ben, je pense que vous avez les éléments en tête, en tout cas les éléments récents. L'OCDE a estimé récemment le coût global de la crise à 12 000 milliards de dollars, donc c'est pas une mince affaire. On nous disait qu'on ne pouvait pas trouver de sous pour faire d'autres réformes sociales, mais pour les réformes antisociales, on en trouve. Cet éclatement de la bulle immobilière, donc en 2007, qui a été déclenché par ce qu'on a appelé la crise des subprimes, on va y revenir après. Mais je voudrais d'abord mettre en place des éléments historiques pour expliquer comment elle a été possible, comment elle a été rendue possible. C'est vraiment la conséquence de choix délibérés pour que cette crise puisse avoir cet impact-là et se déclencher de cette manière-là. Donc on va faire un retour en arrière, et quand on travaille sur le thème de la dette, c'est assez souvent qu'on revient aux années 60 où les conditions ont vraiment changé. Donc, tout ce qui a conditionné la crise, c'est la grande transformation qui a eu lieu à partir des années 1980. Et pour comprendre cette grande transformation, on recule encore un petit peu en arrière. Donc, vous savez sans doute qu'à la fin des années de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mis en place le plan Marshall, qui était destiné à reconstruire les pays de l'Europe. 16 pays en ont profité, essentiellement des pays d'Europe occidentale, puisque les pays qui devenaient sous le bloc soviétique ont refusé l'aide des États-Unis. Ce plan Marshall a été quasiment totalement sous forme de dons. Donc on nous parle de prêts, on parle aujourd'hui davantage mais on ne parle pas de dons. Là, sur les 13 milliards de dollars qui ont été envoyés par les États-Unis vers l'Europe, il y en a plus de 11 qui ont été des dons. Alors ce n'est pas parce que les États-Unis étaient devenus philanthropes d'un coup, c'est parce qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir en face d'eux, en Europe, des pays solides, des partenaires commerciaux solides pour avoir des débouchés pour les entreprises américaines et pour les produits des entreprises américaines. Mais en envoyant tous ces dollars vers les pays d'Europe, étant donné que le dollar n'est pas la monnaie de l'Europe, on s'est rendu compte que finalement, ces dollars arrivaient dans les banques européennes, puisque si vous êtes un entrepreneur d'un pays européen et vous devez reconstruire une infrastructure détruite par la guerre, ça ne vous intéresse pas des dollars, parce que vous devez payer vos ouvriers, vous devez acheter du matériel pour la reconstruction, et ce matériel-là, vous l'achetez dans la monnaie du pays où vous vous situez. Et donc ces dollars qui arrivaient, finalement, allaient très vite dans les banques pour être échangés contre la monnaie locale et permettre la reconstruction. Donc les banques européennes se sont retrouvées avec des milliards de dollars dans leur coffre. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces milliards de dollars? Elles avaient deux possibilités. La première, c'était de les retourner aux États-Unis. On était à une époque où, après les accords de Bretton Woods en 1944, les monnaies étaient librement convertibles les unes par rapport aux autres. Et donc celui qui avait des dollars pouvait demander au Trésor des États-Unis d'échanger ces dollars, soit contre une autre monnaie, soit même contre de l'or, puisqu'elles étaient convertibles en or à un taux qui était fixe, qui était de 35 dollars l'once d'or. Mais les États-Unis, ça ne les intéressait pas du tout de récupérer des bouts de papier qu'ils avaient imprimés, découpés et envoyés en Europe en échange de lingots d'or. Donc ils se sont arrangés pour que ces dollars restent stationnés en Europe. C'est ce qu'on a appelé des euro-dollars. Donc le préfixe euro en économie, ça ne veut pas dire forcément que c'est en Europe, ça veut dire que c'est une monnaie qui est située à l'extérieur de son territoire d'émission. Mais les banques européennes qui ne pouvaient pas retourner ces dollars aux États-Unis parce que les États-Unis les empêchaient de revenir, eh bien, elles avaient intérêt à ce qu'ils ne dorment pas dans leur coffre et à ce qu'ils leur rapportent. Donc, ils ont essayé de trouver des débouchés pour ces dollars, et les candidats naturels pour ces débouchés, c'étaient les pays du Sud qui accédaient à l'indépendance. Les pays asiatiques, c'était à la fin des années 50, les pays africains au début des années 60. Et puis, il y avait aussi les pays latino-américains qui eux, étaient en phase d'industrialisation assez rapide, savoir que l'Argentine était un pays dont le niveau de développement n'était pas très éloigné de la France ou de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils avaient besoin de capitaux soit pour se développer, soit pour s'industrialiser. Et donc, les banques leur ont fait des prêts à des taux très réduits, en disant, ben, écoutez, allez-y, c'est des taux qui sont intéressants, vous allez nous rembourser sans aucune difficulté. Avec cet argent, vous allez produire plus, vous allez exporter plus, et avec ces exportations, vous allez rembourser votre dette. Et on arrive là à un point qui est important au niveau de l'analyse sur la dette, c'est que ces prêts qui sont faits en dollars, pour la plupart, doivent être remboursés en dollars. Celui qui a prêté, qui détient des dollars, n'a pas envie de recevoir la monnaie du Nigeria, de l'Afrique du Sud ou des francs CFA en échange. Il a envie de recevoir des dollars. Et donc le pays qui s'endette, qui doit rembourser des dollars, doit trouver une méthode pour récupérer des dollars qui permettront de rembourser. Et pour récupérer des dollars, il faut vendre les marchandises à quelqu'un qui a des dollars et qui est à l'extérieur du pays. Et du coup, la production des pays devient non pas dépendante des besoins intérieurs, des besoins nationaux, mais devient dépendante des besoins de ceux qui ont des dollars et qui sont situés à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit le manioc, le mil, le sorgho, tout ça, ça vous exporterez jamais ces trucs-là. Faites du coton, faites du cacao, faites du thé, faites de l'arachide, faites des bananes, faites du sucre. Ça, on en a besoin, nous, en Europe ou en Amérique du Nord, et on ne peut pas le produire. Donc, il y a un premier phénomène qui est une perte de souveraineté pour les quelques pays qui avaient réussi à en acquérir une, dans les choix qui sont faits pour la production. Donc, ces pays s'endettent auprès essentiellement de banques privées, de banques européennes, de banques nord-américaines. Et donc, c'est ce qu'on appelle la part privée de la dette qui explose, c'est la dette d'un pays du Sud envers une banque ou une institution privée du Nord. Un deuxième facteur dans l'explosion de la dette des pays du Sud, qui va nous permettre d'arriver à la crise de la dette et donc à la grande transformation des années 80, ce deuxième phénomène, c'est le choc pétrolier de 1973, avec les prix du pétrole qui sont multipliés par plus que 2-3 en quelques semaines. Et donc, il y a un nouvel afflux de dollars chez les pays producteurs, notamment chez les émirs du Golfe, qui eux aussi placent cet argent dans les banques du Nord. On appelle ça des pétrodollars, et ils viennent de nouveau alimenter ces prêts qu'on fait aux pays du Sud pendant toute la décennie 60 et 70. Deuxième acteur dans l'endettement des pays du Sud, les pays du Nord, comme c'est la crise à partir de 73-75 au Nord, c'est la première grande récession généralisée depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien les pays du Nord ont l'idée de distribuer en fait du pouvoir d'achat au Sud. C'est-à-dire qu'on va faire un prêt à un pays du Sud, mais pas pour qu'il choisisse ce qu'il va acheter avec, on va lui faire un prêt du montant correspondant à une commande qu'il aurait passée chez les entreprises du pays prêteur. Donc en gros, la France dit au Sénégal, on vous prête 10 millions de francs français à l'époque, mais en échange, vous achetez pour 10 millions de francs de marchandises françaises à des entreprises françaises. C'est peut-être pas les moins chers, c'est peut-être pas les marchandises les plus adaptées à vos besoins, mais vous devez acheter des marchandises françaises. Donc en fait, les hommes politiques deviennent souvent des représentants du commerce à grande échelle. Donc ça, c'est le deuxième acteur, c'est ce qu'on appelait la part bilatérale de la dette, c'est une dette contractée par un pays du Sud envers un autre pays, en l'occurrence, en général, un pays du Nord. Troisième acteur dans cette montée de l'endettement, c'est la Banque mondiale. Alors la Banque mondiale, elle est née en 1944 à Bretton Woods. Son nom initial, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Donc elle était prévue pour organiser la reconstruction de l'Europe notamment, mais on a vu que c'est le plan Marshall qui s'en est chargé. En fait, les États-Unis s'en sont chargés de manière unilatérale au lieu de passer par un organisme multilatéral. Et donc, deuxième aspect pour la Banque mondiale, c'est le développement des pays du Sud. Développement qui est un mot très connoté, très idéologisé depuis le discours sur le traité de l'Union de Truman en 49. Donc on va développer les pays du Sud, on va occidentaliser les pays du Sud, on va les ouvrir aux entreprises américaines. Cette Banque mondiale, au départ, elle va prêter assez peu pour le temps qu'elle se mette en place. Le premier prêt date de 1947. Alors pour la petite histoire, le premier prêt, c'est un prêt à la France. Donc ça, c'est peut-être pour la reconstruction. Un prêt d'un montant très important, hein, 250 millions de dollars, un montant qui sera atteint des années et des années plus tard. Et ce prêt avait été décidé très très tôt par la Banque mondiale. La Banque mondiale commence à fonctionner en décembre 1945. Le premier prêt date de mai 1947, mais il était dans les tuyaux depuis un bon moment. Mais il y avait une condition que la Banque mondiale avait mise à ce prêt, c'était que les ministres communistes quittent le gouvernement français. Il quitte le gouvernement le 5 mai 1947 et l'argent arrive le 9 mai 1947. Donc il y avait vraiment un lien de cause à effet entre les deux. La Banque mondiale va faire un second prêt aux Pays-Bas, qui sont en guerre coloniale en Indonésie. Alors les Pays-Bas et la Banque mondiale disent non, mais l'argent de la Banque mondiale n'a pas servi à faire une guerre coloniale. Mais enfin bon, ils se foutent de nous en disant ça, puisqu'on sait très bien que c'est pas forcément le même billet qui va permettre d'acheter des armes, mais en tout cas, ça a soutenu les Pays-Bas dans l'effort de guerre coloniale en Indonésie, qui sera un échec puisque l'Indonésie deviendra indépendante un peu plus tard. Ensuite, la Banque mondiale, on va continuer de prêter petit à petit à des pays du Sud, mais il y a un virage en 1968, en début 1968, quand le président de la Banque mondiale change, le nouveau s'appelle Robert McNamara. Vous avez entendu parler récemment de ce gars-là qui est décédé. C'est un gars qui a un parcours absolument prodigieux, je résiste pas à l'envie de vous faire son pédigré. Il a été d'abord PDG de Ford. C'était le premier PDG de Ford qui n'était pas issu de la famille Ford. Mais il est resté que quelques semaines PDG de Ford puisque Kennedy l'a appelé pour devenir secrétaire d'État à la défense des États-Unis. Et l'anecdote est véridique. Kennedy ne savait pas qui nommer comme secrétaire d'État à la Défense, et on lui a dit que le président précédent, qui était Eisenhower, avait choisi comme secrétaire d'État le PDG de General Motors, parce qu'il avait dit qu'il est capable de diriger la plus grande entreprise des États-Unis, il est capable de diriger l'armée des États-Unis. Et Kennedy trouve l'idée séduisante et il appelle le PDG de la deuxième multinationale, qui est Ford. Et il tombe sur McNamara, qui accepte de devenir président, secrétaire d'État à la Défense. C'est lui qui va envoyer de plus en plus de troupes au Vietnam, c'est lui qui va vraiment pousser pour faire la guerre au Vietnam, à tel point qu'au Vietnam, la guerre du Vietnam, il ne l'appelle pas la guerre du Vietnam, il l'appelle la guerre de McNamara. En 1967, ça commence un petit peu à sentir le roussi pour les États-Unis au Vietnam, et McNamara se barre et il est bombardé président de la Banque mondiale. Et pour lui, il n'y a pas de rupture entre tout ça. Pour lui, il y a le commerce, il y a la guerre, et il y a le développement avec la Banque mondiale, et c'est un triptyque qui est dans une parfaite continuité. Il va même se servir de la Banque mondiale un petit peu en forme de rédemption, pour se faire pardonner certains excès de la guerre du Vietnam qu'il reconnaîtra plus tard. Alors pour la petite histoire, il y a un quatrième pied au triptyque, donc c'est pas un triptyque. J'avais lu dans un... C'était un portrait de Bernard Debré dans Libé. Vous connaissez Bernard Debré, le médecin, député de Paris. Vous connaissez Libé, enfin, voilà. Et donc dans ce portrait, Bernard Debré racontait que donc quand il était tout petit, en short et en grande chaussette, son papa était Premier ministre, il était à Matignon. Et un jour, ils accueillent McNamara qui vient manger à Matignon, et McNamara s'est barré en piquant les couverts en vermeil. Et Madame Debré est entrée dans une colère noire, elle a écrit une lettre d'engueulade à McNamara qui a renvoyé les couverts en vermeil à Matignon. Donc voilà, on a fait le tour, c'est-à-dire le commerce, la guerre, le développement et le vol, et avec ça, on a fait absolument le tour de la personnalité de McNamara. Bon. McNamara, il va accélérer considérablement les prêts de la Banque mondiale. En 5 ans, pendant les 5 premières années de sa présidence, il va prêter plus que la Banque mondiale n'a prêté depuis qu'elle existe en 23 ans. Donc il y a vraiment un coup d'accélérateur délibéré qui est donné. Et le but de McNamara, c'est de prêter aux alliés stratégiques des États-Unis et de prêter à certains pays pour ensuite avoir un droit de regard sur les politiques et sur les choix économiques. Par exemple, il va prêter à l'Égypte. Parce que l'Égypte est un allié important, l'Égypte ne doit pas tomber du côté soviétique, c'est déjà les soviétiques qui ont construit le barrage d'Assouan, etc., et pour avoir un droit de regard sur les choix de l'Égypte, on va prêter à l'Égypte, on va dire, mais maintenant qu'on t'a prêté, mon petit gars, tu vas quand même nous rendre compte de ce que tu fais avec l'argent qu'on t'a prêté. Et puis on va prêter à tout un tas d'alliés des États-Unis, des gens très recommandables, comme l'Indonésie de Suharto, comme le Zaïre de Mobutu, comme la dictature argentine, la dictature brésilienne, enfin que des gens qu'on a dans notre carnet d'adresse, tout autant qu'on est. Ça, c'est la partie multilatérale de la dette. Donc, sous l'effet de ces trois acteurs, les banques privées, les pays du Nord, et la Banque mondiale, et puis toutes celles qui lui ressemblent, il y a une banque africaine de développement, une banque interaméricaine de développement, une banque asiatique de développement qui fonctionne grosso modo de la même manière et qui vont dans la même logique, la dette, elle explose. La dette des pays du Sud, elle passe d'à peu près 50 milliards de dollars en 1968 à 540 milliards de dollars en 1980. Donc elle est multipliée par 11 en 12 ans. Alors, va se passer ce qui devait se passer, c'est-à-dire que tous ces pays qui s'endettaient de plus en plus, devait produire de plus en plus pour rembourser. Mais en produisant de plus en plus, il devait exporter de plus en plus. Mais comme c'est la crise dans les pays du Nord, il n'y a pas plus de débouchés au Nord. Et donc en produisant de plus en plus les mêmes produits, les produits tropicaux qu'on leur demande de produire, eh bien du coup ils vont se faire concurrence entre eux, et donc l'offre n'augmente pas, l'offre augmente, la demande n'augmente pas, et d'après le principe de l'offre et de la demande, le cours des matières premières commence à se casser la gueule. Donc, on situe le pic des matières premières en 1976, globalement, et à partir de 1977, ça amorce une baisse très importante. En moyenne, les matières premières agricoles et les matières premières minières vont connaître une baisse en dollars constants de 2,8% par an pendant 25 ans. C'est énorme. Donc, entre 1977 et 2001 inclus, c'est une baisse moyenne de 2,8% avec des variations. Le pétrole, c'est un cas à part parce que il y a un enjeu géostratégique très important derrière, mais pour les autres produits, les cours commencent à baisser. Et les pays du Sud comptaient sur cet argent pour rembourser leurs dettes, évidemment. Donc, pour récupérer la somme qui était attendue, ils vont devoir produire encore plus, mais en produisant encore plus, ils vont se faire encore plus concurrence et ça va accroître encore la baisse des cours des matières premières.